Amour de soi. Ces trois petits mots semblent si simples, et pourtant, combien d'entre nous peuvent affirmer s'aimer pleinement, inconditionnellement, et vivre sans la présence de cette petite voix critique qui leur murmure qu'ils ne sont pas assez beaux, pas assez intelligents, pas assez accomplis, pas assez aimables, etc. Dans notre monde saturé d'images idéalisées, de réussites spectaculaires, de vies mises en scène en ligne, comment ne pas nous sentir en décalage? Les réseaux sociaux créent un miroir déformant dans lequel nous comparons notre réalité brute aux versions soigneusement filtrées des autres. Comment nous aimer dans ce contexte? Il y a aussi notre histoire personnelle, notre passé, nos blessures d'enfance, nos échecs, les paroles que nous avons reçues et qui ont laissé des traces qui résonnent encore. Ces expériences ont façonné notre perception de nous-mêmes, souvent à notre insu. Pourtant, l'amour de soi n'est pas un luxe. C'est un besoin vital, le socle sur lequel nous construisons notre relation au monde. Sans amour de soi, nous sommes comme une maison bâtie sur du sable, vulnérable à chaque tempête émotionnelle. Avec l'amour de soi, nous devenons une forteresse, capable de résister aux vents les plus violents. Alors pourquoi est-il si difficile pour nous de nous aimer? Pourquoi semblons-nous programmés pour nous critiquer plutôt que nous célébrer? Comment transformer ce dialogue intérieur, souvent dur et exigeant, en une conversation bienveillante et constructive avec nous-mêmes? C'est avec ces questions que je souhaite ouvrir ce livre audio. Et pour y répondre, je vous propose 5 clés qui, pour moi, sont devenues essentielles. Comme toujours, ce ne sont pas des formules magiques, mais des chemins à explorer, des pratiques à intégrer progressivement. J'espère qu'elles vous aideront autant que moi. Clé numéro 1. Prenez conscience de l'empreinte de votre passé. La première clé, c'est de prendre conscience de l'empreinte que notre passé a laissée sur notre rapport à nous-mêmes. Dès l'enfance, nos relations avec nos figures d'attachement construisent des modèles intérieurs qui façonnent notre manière de nous percevoir. Si très jeune, nous entendons des messages conditionnels comme « je t'aime quand tu es sage » ou encore « tu es brillant quand tu as de bonnes notes », nous développons la croyance que l'amour se mérite. Cette programmation émotionnelle s'ancre dans notre système nerveux et notre inconscient. Notre cerveau, toujours en quête de protection, retient les douleurs, les rejets, les humiliations, comme des alertes pour l'avenir. Elles deviennent des preuves que nous ne sommes pas dignes d'amour inconditionnel. Avec le temps, ces croyances s'installent en nous si profondément que nous les confondons avec notre identité. « Je ne suis pas assez » n'est pas perçu comme une idée apprise, mais comme une vérité absolue sur nous-mêmes. Cette voix critique interne devient si familière que nous la considérons comme la voix de la raison ou de la sagesse, alors qu'elle n'est que l'écho de nos blessures passées. Ce processus explique pourquoi il est si difficile de transformer notre dialogue intérieur. Nos pensées négatives sont comme des chemins trop empruntés dans notre esprit, des autoroutes mentales que nous suivons par habitude car elles nous semblent plus faciles à parcourir. Pourtant, notre cerveau est plastique, il peut créer de nouveaux chemins. Comme un jardinier patient, nous pouvons cultiver de nouvelles voies neuronales en pratiquant consciemment l'autocompassion et en remettant en question ses croyances limitantes. La première étape, c'est de reconnaître cette voix critique pour ce qu'elle est vraiment. Non pas la vérité, mais une stratégie de survie obsolète. En observant nos pensées avec distance et curiosité, nous commençons à nous en libérer. De mon côté, ce qui m'aide, c'est de me répéter que ma valeur ne dépend pas de ce que je fais. Elle n'est pas quelque chose que je dois conquérir, mais une réalité inhérente à mon existence que personne ne peut m'enlever. Clé numéro 2. Cessez de vous comparer aux autres. La deuxième clé, c'est de prendre conscience de notre tendance à la comparaison. Elle est souvent inconsciente, mais omniprésente dans notre quotidien. La comparaison sociale est un mécanisme cognitif. Elle nous permet de nous situer, de nous ajuster à notre environnement. Mais dans notre monde moderne, elle est devenue un poison. Chaque jour, à travers les réseaux sociaux ou les médias, nous sommes exposés à des images de réussite, de beauté, de bonheur, qui créent une norme artificielle à laquelle nous nous mesurons. Ce qui rend cette comparaison particulièrement toxique est son caractère biaisé. Nous comparons nos doutes, nos échecs, nos luttes intérieures avec les meilleurs moments des vies des autres, soigneusement mis en scène. Cette asymétrie nous place dans une position d'infériorité perpétuelle. Par ailleurs, notre cerveau est programmé pour repérer davantage ce qui nous manque que ce que nous possédons déjà, un biais de négativité qui favorisait autrefois notre survie. Ainsi, même lorsque nous réussissons dans certains domaines, nous fixons notre attention sur ceux où nous nous sentons déficients. Cette distorsion cognitive nous enferme dans un sentiment d'insuffisance chronique, nous empêchant de reconnaître et d'apprécier nos propres qualités et accomplissements. Pour sortir de cette spirale, il est essentiel de mettre de la conscience sur nos mécanismes automatiques et de développer une attitude de gratitude envers notre propre parcours. Chaque fois que je me surprends à me comparer aux autres, je m'efforce de rediriger mon attention vers mes propres progrès, aussi modestes soient-ils. J'ai également appris à célébrer les réussites des autres sans les transformer en motif d'autodépréciation. J'ai longtemps tenu un journal de gratitude qui me permettait d'acter mes petites victoires quotidiennes et de construire peu à peu une image plus équilibrée de moi-même. Il m'arrive encore de les noter. Je vous invite à essayer. Je prends tous les jours un temps pour mettre de la conscience sur tout ce qui va bien dans ma vie, même les petites choses. Finalement, j'ai compris que la seule comparaison utile est celle entre la personne que j'étais hier et celle que je suis aujourd'hui. C'est cette vision qui m'aide à cultiver une relation plus saine avec moi-même et avec les autres. Clé numéro 3. Renoncer à l'idéal de perfection. La troisième clé est de comprendre que la perfection est inatteignable. Le perfectionnisme est souvent valorisé comme une qualité dans notre société de performance, mais il constitue en réalité un mécanisme défensif. Derrière la quête de perfection se cache en général une peur profonde, celle de ne pas être aimé ou accepté si nous montrons nos faiblesses. Ce mécanisme fonctionne comme une stratégie paradoxale d'évitement de la honte. En nous fixant des objectifs inatteignables, nous nous plaçons dans une position où l'échec est inévitable, et cela confirme notre croyance inconsciente d'être fondamentalement défaillant. Cette prophétie autoréalisatrice renforce le sentiment que nous devons constamment faire plus d'efforts, être meilleurs, pour mériter l'amour et la reconnaissance. Le perfectionnisme nous maintient également dans l'illusion que le contrôle absolu est possible. Il nous fait croire qu'en maîtrisant tous les aspects de notre vie, nous pourrons éviter la souffrance, le rejet ou l'échec. Cette illusion nous prive de l'expérience fondamentale de notre humanité, qui inclut nécessairement la vulnérabilité, l'imprévisibilité et la croissance à travers les erreurs. La perfection nous piège dans une quête sans fin. Cette poursuite épuisante nous empêche d'apprécier nos réussites présentes, car notre regard est toujours fixé sur ce qui pourrait être amélioré. Nous développons ainsi une vision binaire où tout ce qui n'est pas parfait est considéré comme un échec. Cette mentalité érode progressivement notre estime de nous. Chaque erreur, chaque imperfection devient la preuve de notre inadéquation fondamentale plutôt qu'une simple étape dans notre parcours d'apprentissage. Nous nous jugeons avec une sévérité que nous n'appliquerions jamais aux autres. Accepter l'imperfection ne signifie pas abandonner l'excellence ou renoncer à progresser. Au contraire, c'est reconnaître que la vraie croissance personnelle se produit précisément dans ces espaces d'imperfection, là où nous sommes confrontés à nos limites et où nous avons l'opportunité d'apprendre. Lorsque nous commençons à voir nos erreurs comme des enseignements précieux plutôt que comme des échecs personnels, nous libérons une immense quantité d'énergie créative et d'authenticité.